NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cet épisode vous est présenté avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en décembre 2011 et c'est l'épisode numéro 76. Bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet, gadgets. Aujourd'hui, on va vous parler des méchants fournisseurs d'accès, pas à internet, mais au téléphone portable qui vous espionnent très certainement, de terribles lois qui vont transformer internet juste pour protéger les ayants droit de la musique et de chansons de l'hiver qui sont retirées de YouTube de manière totalement indue et qui font découvrir un poteau rose digne des pires vaudevilles. Ça ne veut rien dire si vous ne savez pas de quoi je parle, mais tout ça deviendra très très clair dans, allez, une petite heure au plus. Vous comprendrez tout ce qui s'est passé de l'actualité tech, parce que nous allons vous expliquer tout ça. Je dis « nous » parce qu'il y a moi, Patrick. Mais je suis accompagné de deux excellents camarades qui officient également sur NoWatch et ailleurs. Corben, alias Salut. Manu Dorn, mon compère de Upload, tu vas bien ?
Ouais, ça va, ça va. Je te dis, je débarque. Hein. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de rendez-vous tech, donc il va falloir me dérouiller. Mais sinon, ouais, tout va bien.
T'inquiète pas, on va te dérouiller. Ouais, on va te dérouiller. Oui, non, mais c'est vrai que j'ai tendance parfois, enfin depuis qu'on fait Upload ensemble, je me dis oui, mais il faut pas, tu vois, trop ramener toujours les mêmes voix, les mêmes visages. Et puis bon, une fois de temps en temps, c'est bien quand même. Et puis surtout, tu es tout à fait légitime pour parler de tous ces sujets, donc je suis certain que tu apporteras un éclairage tout à fait intéressant sur les sujets en question.
Ça marche.
Le deuxième, c'est également un petit peu consanguin parce que c'est un no-watcher de la première heure, c'est Christophe. Comment vas-tu ?
Bonsoir, bonsoir à tous.
Christophe, pas le chanteur. Hein.
Écoute, enfin, ça va si, très un bien, chanteur, mais pas... Ça va très bien. Tu sais, pour moi, c'est un baptême du feu, presque un dépucelage, si j'ose dire. Donc, il va falloir être très gentil et très doux. Il y allait doucement.
Il y a pire que moi, alors.
Je suis toujours doux, y compris avec le fouet que les auditeurs d'Upload connaissent bien. Et on a aussi la chatroom qui est là, fidèle au poste, nombreuse. En fait, j'avais peur que sans le prime time de Will Enco, puisqu'on se partage désormais l'antenne le lundi soir, enfin une semaine sur deux je suis là, mais lui généralement il est là le lundi de 8h à environ 9h30 sur le live NoWatch, et moi j'enchaîne ensuite à 10h, donc je récupère ses auditeurs lâchement, et là il n'a pas fait son émission aujourd'hui exceptionnellement, donc j'avais peur qu'il y ait un petit peu moins de monde. En fait, ils sont nombreux, donc bienvenue à vous, camarades de la chatroom. Si vous nous écoutez sur NoWatch, sur nowatch.net/live, et que vous ne trouvez pas la chatroom, en fait, il y a dans la section de droite du site un petit truc avec des vidéos. Et juste au-dessus, vous avez un onglet avec chat. Et chat, ça s'écrit chat, c'est pas juste un animal de compagnie, c'est aussi un module de discussion. Et ça commence très fort avec les calembours et les plaisanteries de qualité.
Tu disais, les gens sont pendus dans les chatrooms de Winco et la tienne, mais en fait, les gens ne mangent plus, ne vivent plus, ils sont suspendus au podcast NoWatch toute la journée. Faut qu'on en fasse moins. Hein.
Ils ne regardent même pas E.T., tu vois.
Quoi ?
Il paraît que E.T. passe ce soir à la télé sur
France
4.
Ah bon ? Ah oui, d'accord.
Il préfère écouter le rendez-vous tech.
Écoute, je les comprends bien parce que entre Spielberg et Corben, moi, j'ai fait mon choix. Et d'ailleurs, entre parenthèses, pour ceux qui ne le savent pas, qui connaissent bien Jérôme, mais pas forcément aussi bien Christophe, Christophe nous affirme régulièrement qu'il est à l'origine de la borguerie, en fait, que c'est une sorte de vol intellectuel qu'a fait Jérôme. Et donc, je compte sur toi, Christophe, pour bien nous rappeler la vérité de la borguerie qui est qu'elle est en fait une console.
Tu me mets la pression d'entrée, là.
Ouais, mais complètement.
Ah, c'est toi qui as inventé la borguerie. Bah, écoute, on te remercie pas parce que c'est vraiment...
Jérôme, entre son père et moi, il a été bien entouré et ça déteint forcément.
Je remercie d'ailleurs Outdoc sur la chatroom qui nous dit Patrick est plus agréable à regarder Kitty quand même.
Outdoc qui a fait le site où il y a toutes les borgueries rassemblées.
Exactement. Exactement. C'est, tu peux nous rappeler l'adresse du site Outdoc, et à chaque fois je l'oublie, c'est borguerie.outdoc.fr ou un truc comme ça. On va le dire immédiatement quand il le mettra dans la chatroom. Mais donc, nous avons un programme relativement chargé à URL removed, évidemment, si je fais pas allow links, voilà, remets-la, là elle est, c'est un fail, effectivement. Parce puisque la chatroom, n'autorise pas à mettre les URL.
Oh, il est strict, remettre, hein, ce Patrick. Hein,
Ah, bah oui, non, mais bien sûr, écoute. C'est bien borguerie.outdoc.fr, j'avais bon, en plus, c'est magnifique. Bon, bref, on enchaîne avec le premier sujet de l'émission qui va être extrêmement intéressant puisque c'est cette histoire de Carrier IQ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Carrier IQ ? C'est le nom d'une société qui est composée en fait de Carrier qui veut dire... comment on appelle les gens qui fournissent des services de téléphone mobile en français ?
Des opérateurs.
Voilà,
opérateurs, c'est ça. Voilà.
Bien joué. Christophe qui fait genre, ouais, je le savais en répétant. Non,
on a deux Jean-Claude Van Damme, tu vois, et moi je suis le français qui reste.
C'est bien, il en faut au moins. Donc, des opérateurs de téléphonie mobile, et IQ, QI. Et en fait, c'est une société qui, il y a, je vais partir un petit peu de l'origine supposée de toute cette histoire. Il y a bien longtemps, quand vous aviez des appareils mobiles très simples, des dumb phones, des trucs genre les vieux Nokia, les 3310, les trucs comme ça, eh ben, les opérateurs de téléphonie mobile mettaient sur votre téléphone un logiciel caché qui analysait la nature du trafic et du réseau. Alors, c'était très utile pour eux pour avoir des informations sur leur réseau, des informations vraiment importantes pour pouvoir savoir où ça n'allait pas, quels étaient les problèmes et bien sûr pour, à terme, les résoudre. Le truc, c'est qu'ils ont continué à faire ça et aujourd'hui que nos téléphones sont des petits ordinateurs, eh ben, le jour où on trouve un petit logiciel caché qui analyse tout ce qu'on fait sur notre téléphone qui est en fait un ordinateur, eh ben, tout le monde se met à paniquer. Et c'est ce qui s'est passé quand un jeune hacker américain, enfin je dis jeune, je ne sais même pas s'il est jeune, mais bref, un hacker américain a analysé les données de son téléphone, de son Android, et il se demandait ce qui se passait. Il se demandait pourquoi il y avait certaines sources de trafic qui étaient inexpliquées. Il a vachement investigué la chose et il s'est rendu compte en fait qu'il y avait ce petit logiciel caché qui analyser tout ce qui se passait sur l'ordinateur. Alors, je vais vous la faire courte, il y a eu plein d'allers-retours entre les hackers, enfin, les gens qui analysaient ces données, la société Carrier IQ elle-même, les opérateurs qui en ont parlé aussi, parce que au départ, il pensait, le hacker, que Carrier IQ, ce logiciel, analysait absolument tout ce qui se passait sur votre téléphone et en envoyait les informations à la société en question, jusqu'à tous les SMS, le contenu des SMS, chaque touche que vous appuyez sur votre téléphone a été envoyée, les photos que vous enregistriez sur votre téléphone, bref, absolument tout. On a appris à la suite d'une sorte de moment de panique générale qu'en fait, c'était pas tout à fait le cas. Il y a certaines informations qui sont envoyées aux opérateurs, certaines non. Et certaines qui ne sont pas du tout analysées, genre toutes les touches sur lesquelles vous appuyez. Évidemment, ça va dans un buffer sur votre téléphone, parce qu'il faut bien que le téléphone sache sur quelle touche vous appuyez pour traiter les informations, mais c'est pas enregistré par Carrier IQ. Bref, on s'est quand même un petit peu réveillé comme d'une une sale cuite il y a une semaine et demie. Alors, sachez que c'est surtout aux États-Unis cette histoire. Ouais. Mais il n'est pas du tout impossible qu'il y ait le même genre de technologie en France. C'est même probable. Mais on s'est donc réveillé d'une sorte de sale cuite il y a quelques semaines. Et ça a provoqué un véritable scandale avec des sénateurs américains qui s'y sont mêlés et qui ont demandé à Carrier IQ de savoir de quoi il s'agissait. Certains ont voulu savoir si le FBI avait accès à ces informations et le FBI a répondu, bah, désolé, on peut pas vous en parler. Donc certains ont
c'est
parti.
La défense.
Bah ouais, c'est ça. Mais certains sont partis du principe que, ah oui, donc ça veut dire qu'ils ont accès à ces informations. En fait, pas tout à fait. Carrier IQ était allé voir le FBI pour leur dire allez-y, regardez tout ce qu'on fait parce qu'on veut être hyper clean dans cette histoire, donc vérifiez qu'on n'a pas de trucs totalement illégaux dans notre activité. Bref, c'était tout un bordel, ouais. Et ça a vraiment fait les gros titres de la semaine dernière. C'était une surprise pour toi, Corben, qui est essentiellement un rootkit, un logiciel espion dans les téléphones.
Tu sais, moi, les surprises, j'en ai de moins en moins. Mais... Ouais. Non, enfin, disons que ce qui est dommage, c'est qu'on le savait pas, quoi. Mais c'est pas vraiment une surprise qu'il y a ça dans, des rapports de bugs. Enfin, c'est essentiellement pour remonter des rapports de bugs, des choses comme ça. Donc ça, on a ça dans tous les logiciels ou dans tous les OS. C'est vrai que là, c'est surtout imposé par les opérateurs aux États-Unis. Voilà. Après, non, c'est une demi-surprise tant qu'on sait pas vraiment ce que ça fait. De toute façon, pour l'instant. Ouais.
Voilà. Je crois que la grosse erreur, c'est avant tout une...
Tu peux parler plus près du micro.
Je crois que la grosse erreur, c'est surtout une erreur de communication. Comme l'a dit Corben, c'est le fait que tout ça n'ait pas été révélé avant qu'un petit malin s'en aperçoive au détour d'un hacking, quoi.
Ouais,
si ça avait été dit d'emblée, et tu vois, s'il y avait ce système que je connais pas, dont je me souviens plus le nom de, quand tu installes certains logiciels, ou que tu actives certains services sur Apple, où on te demande ton accord pour collecter des infos et améliorer le service.
Oui, un peu. Bon,
voilà,
aussi.
Au moins là, tu sais.
Ah oui, il y a plein de logiciels qui
tu sais à quoi t'en
ça.
Tenir. Quand tout est fait dans ton dos, je comprends un peu que la désillusion soit un peu amère, quoi.
Ouais. Ouais. Moi, j'ai tendance à. Bah, tu l'as très bien dit, Christophe. C'est vraiment un problème de communication parce que moi, j'ai un petit peu tendance à être. Je le sais, parfois un peu cool en me disant ouais, bon, ok, c'est pas grave, c'est comme ci, c'est comme ça. Là, je crois que c'est. Enfin, il est normal que les opérateurs de Nîmes et des informations qui sont remontées des terminaux qu'on utilise. Donc, et comme je le disais au début, ça vient tout ça d'une mécanique qui est très ancienne, à l'époque où les téléphones n'étaient pas des smartphones, et on ne pensait pas à nos téléphones comme des smartphones, on pensait pas à nos téléphones comme des ordinateurs, c'était juste des téléphones et c'était des logiciels de log, de diagnostic, quoi. Et c'était parfaitement normal. Et on n'a pas fait le cheminement intellectuel de se dire ah bah oui ça va, enfin en tout cas ceux qui utilisent ceux qui mettent en place ces logiciels n'ont pas switché, n'ont pas cliqué en se disant ah oui mais quand les smartphones sont devenus presque des ordinateurs là ça pose un problème. Mais par contre il y a eu un gros problème de communication parce que oui. Ça a fait un énorme scandale pendant une semaine et on savait pas, surtout on savait pas ce qui se passait, on avait l'impression que tous nos téléphones, et on a appris, alors les téléphones de cette marque, de tel opérateur, vous espionnent, quoi. Donc c'était.
Ah oui, ça, c'est un problème. Vas-y,
je t'en prie.
Non, ce mot, ça va être long.
Mais non, parce qu'effectivement, il y a quand même. Je comprends la volonté des opérateurs de vouloir collecter, de faire un log finalement des infos qui transitent sur un portable pour savoir sur quel point il faut améliorer le service, quel est le service le plus utilisé, à quelle heure, machin. Mais entre un log pur et simple, une espèce de listing opaque. Et la récupération systématique de toutes les infos personnelles que tu émets ou qui transitent sur ton smartphone, là c'est quand même un monde. Et effectivement ce flou qu'il y a eu pendant ces 10-15 jours là après la levée du lièvre, j'imagine que oui, il y en a qui ont dû monter au créneau très très vite.
Et ça, il y a pas mal de sociétés qui ont ce problème-là, parce qu'en fait c'est un problème de transparence. Et j'ai parlé à quelqu'un à le web, un entrepreneur qui monte sa boîte de profilage d'internautes. En gros, le gars, ce qu'il m'a expliqué, c'est que il arrive à déterminer à partir des visiteurs sur un site quel type de visiteur c'est, en fait. Enfin voilà, d'où il vient, son niveau, enfin voilà, un peu voilà, il profile le truc. Et en fait, il
son
avait un
niveau
problème.
Genre
son niveau social,
ah, oui,
il gagne, son sexe, enfin la totale, quoi. Vraiment des infos très très précises. Il a mis une techno au point qui a l'air sympa. Le truc, il fallait me voir en me disant ouais j'ai ça, Comment est-ce que tu ferais pour que les gens viennent pas m'accuser de tous les maux, parce que c'est effectivement c'est anonymisé, on peut pas retracer avec les IP, etc. Là j'ai un peu séché quoi. Je lui ai dit que même s'il était super transparent, pour être super transparent, c'est expliquer exactement ce que fait son système, etc. Ouais. J'ai dit que même ça suffirait pas. C'est-à-dire qu'en plus, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne contrôler une espèce d'autorité supérieure.
Ouais, une sorte d'audit externe.
D'audit externe. Il m'a dit, ouais, mais je vais le créer le label. J'ai dit, oui, mais si tu le crées, t'es aussi dans le truc, donc t'es mouillé, les gens vont pas te croire. Et je lui ai dit aussi, tu peux faire, par exemple, des outils qui vont permettre de désactiver le tracking, de laisser le choix aux gens. Ouais,
c'est simple, moi j'ai la solution pour lui, hein. Il demande l'aval de Jérémy Zimmerman. si il réussit à avoir la quadrature du net derrière lui, c'est bon, il est tranquille. Quoi.
Ouais, ouais, non, mais en fait, ce genre de solution marketing, pour faire du marketing, etc., de profitage de gens. Il y en a plein qui le font. Après, effectivement, on peut toujours voir le diable derrière et c'est super difficile même pour eux de montrer patte blanche.
Il y en a plein qui le font. Entre parenthèses, Facebook, c'est une machine à faire exactement ça. Hein.
Donc, mais Facebook, ils ont le même problème. C'est-à-dire que dès qu'il se passe un truc, même si eux font pas forcément mal, même si ils nous rassurent sur certains points, etc., il y aura toujours le doute parce que tant qu'on n'a pas été voir le code source ou tant qu'on n'a pas vu vraiment les données de nos yeux, il y aura toujours un doute. Et ce mec là qui me parle à le web était vraiment embêté parce qu'il voulait pas passer pour le méchant, le diable qui collecte toutes les infos, parce qu'il a un vrai business derrière, et puis en même temps il était un peu coincé parce que c'est vrai que les gens sont assez frileux, moi le premier, mais sont assez frileux là-dessus quoi.
Et entre parenthèses, je vais juste faire une petite parenthèse pour dire que comment il s'appelle le jeune homme, je vais retrouver son nom, Nels 75018, alors je ne sais pas dans quel arrondissement il vit, mais au hasard je vais dire le cinquième, il nous disait qu'il n'était plus le carrier IQ n'est plus chez Apple depuis iOS 5. C'est vrai qu'on a appris que Apple, ce qui a aussi fait un petit peu bizarre, on a appris que Apple avait décidé de ne plus intégrer carrier IQ, ça veut dire qu'il y était avant et que finalement il n'y est plus depuis iOS 5. Jérôme nous dit, chez No Watch, quand vous écoutez et regardez un podcast, on peut avoir votre code de carte bleue, on fouille dans votre frigo et on fume vos clopes. Donc, vous êtes prévenus, au moins, on est transparent.
Ah, c'est lui, alors. D'accord.
Et Outdoc lui répond, ça expliquerait le fait que ma carte bleue soit dans mon frigo.
C'est comme ça. Tout s'explique, finalement. C'est assez rationnel, c'est assez logique.
Oui, complètement.
Non, mais par contre, moi, je me pose une question parce que, justement, tu dis, Carrier IQ n'est plus dans les iPhones. Et moi, je me pose la question de Siri. Mmh. Parce que finalement, Siri n'est qu'un immense enregistreur de requêtes.
Oui. Qu'est-ce
qu'ils font de nos requêtes? Parce que ces requêtes, elles sont bien identifiées elles sont bien reliées à un iPhone en particulier, puisqu'il faut bientôt renvoyer la réponse à ta question.
Ouais.
Et là, personne ne se pose la question.
C'est vrai que
Google, c'est pareil. Enfin, n'importe quel moteur de recherche.
Voilà.
D'une manière générale, l'avantage entre guillemets qu'a Apple par rapport à des sociétés comme Google, c'est que Apple vous fait payer ses services et Google utilise vos informations pour vous donner des services gratuits sur lesquels ils vont ensuite mettre de la pub. Donc, a priori, bien sûr, rien n'est définitif, mais on peut se dire que Apple a plus intérêt à protéger vos informations et à ne jamais les laisser sortir que Google. Mmh. Ceci dit, la question de Siri est intéressante, d'autant plus que peut-être demander quel est le restaurant le plus proche à Siri, c'est pas trop gênant. Par contre, si jamais cette fameuse télévision Apple dont on entend de plus en plus de rumeurs finit par arriver, télévision Apple avec Siri comme interface de contrôle plutôt qu'une grosse télécommande avec plein de boutons, il suffirait de demander à la télé « je veux voir Plus belle la vie » au hasard, et il va Corben approuve, et il va donc la chercher directement. Et si toutes ces informations sont aussi quelque part sur un serveur Apple pour améliorer les réponses aux requêtes, pour plein de choses, là, ça fait un peu plus d'informations encore. Si ça arrive, enfin oui, ça donne beaucoup d'informations au final, quoi.
Ou si tu demandes à Siri comment faire un pétard géant avec un pot de mayonnaise et deux piles 1V5, tu peux être tout de suite traité de terroriste. Donc attention, faites gaffe à ce que vous dites à votre.
Ça doit arriver. Hein.
Pétard, je pensais à un autre type de pétard.
Moi, tout est sujet à interprétation. Tu vois, tu y as mis ce que tu voulais.
C'est un exemple parfait. Et je vous propose qu'on enchaîne avec la suite de l'émission où on va vous parler de... Alors, il y a la Megasong et SOPA. SOPA, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est la suite de Protect IP. Et pour ceux qui ne savent pas, en gros, l'industrie de la musique principalement américaine s'est dit qu'il n'avait pas assez d'outils pour combattre les méchants pirates avec la DMCA. Alors la DMCA, c'est le Digital Millennium Copyright Act.
Je croyais que c'était une chanson de les people. Moi.
C'est les cowboys indiens et tout. Non.
Le DMCA. Alors suivez bien, ça va être compliqué, mais après vous pourrez faire les malins dans les dîners de Noël. Vous pourrez expliquer tout ça à vos beaux-parents. Alors le DMCA, c'est le Digital Millennium Copyright Act, et c'est une loi qui permet, en gros, aux ayants droit aux États-Unis de faire retirer le contenu qui leur appartient des sites d'hébergement. Par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est sur YouTube. Si jamais quelqu'un met un morceau de musique de Michael Jackson au hasard, les ayants droit de Michael Jackson peuvent aller exiger de YouTube qu'il retire ce morceau, et il sera automatiquement retiré. Et la personne qui l'a uploadé a 10 jours pour contester la décision, et ensuite, ça peut partir dans des questions légales. Mais automatiquement, à l'origine, les ayants droit ont le droit de demander le retrait de n'importe quel contenu qui leur appartient. Donc,
y compris si ce ne sont pas des enregistrements originaux.
Bien sûr, bien sûr. Si vous mettez à chanter Billie Jean dans votre salle de bain et que vous l'enregistrez,
par exemple, notre ami JC Frog pourrait se faire
ban de
n'importe quel site d'hébergement, quoi.
Exactement. Si jamais les ayants droit, alors je ne sais pas quel est le statut de la loi DMCA en France.
La parodie.
Mais alors la parodie, c'est encore autre chose. Mais effectivement, une société américaine qui est ayant droit ou un ayant droit personnel peut faire retirer les chansons. Si par exemple les ayants droit de Jacques Brel décident de faire retirer les trucs les parodies entre guillemets de Jacques Brel, que fait notre ami JC Frog, ils auraient le droit de les faire retirer purement et simplement, et personne n'a rien à dire. En plus,
je suis pas sûr. Comme c'est une parodie, je suis pas sûr qu'ils aient le droit. Bon, si effectivement s'il a rechanté tel quel, etc., sans la parodie, oui.
Bon, c'est clairement pour combattre la piraterie. Hein. Oui. Et ça va tellement loin que Google a automatisé ces processus, c'est-à-dire qu'il y a des robots qui pas des robots genre Billy Billy Billy, des robots informatiques, hein. Enfin des programmes. des programmes qui analysent tout ce qui est uploadé sur YouTube. Si jamais ils détectent des morceaux de contenu protégé qui sont tous référencés, et ben automatiquement votre vidéo est supprimée.
Enfin, c'est la mort du rap.
Ah bah oui, ça c'est sûr que les samples vont
Attends,
être difficiles.
Les rappeurs qui samplent à...
C'est une question...
À foison, c'est...
Bref. Alors, on va revenir à cette question spécifique des ayants droit qui veulent retirer des vidéos un petit peu plus tard, mais avec tout cet arsenal qui est quand même assez puissant, les ayants droit estiment qu'ils n'ont pas assez d'armes pour se battre contre les pirates. Et ils sont en train de promouvoir une loi, en fait, avec du lobbyisme extrême à Washington, de promouvoir une loi qui les autoriserait à... C'est difficile de rester objectif en décrivant cette loi, parce que quand on comprend un petit peu comment marche Internet, c'est tellement inepte que ça énerve forcément. Mais je vais essayer de rester synthétique. Alors, le principe, c'est que si jamais un site héberge du contenu illégal, du contenu de pirate, eh bien, les ayants droit américains pourraient aller chez les fournisseurs d'accès Internet pour leur dire que l'adresse du site doit être effacé de leur annuaire Internet, de leur DNS, de leur Domain Name Server, de manière à ce que tous les gens qui sont, qui utilisent ce fournisseur d'accès Internet ne puissent plus y accéder. C'est-à-dire que, imaginez, demain, NoWatch.net est considéré par les ayants droit américains comme un site au contenu pirate. Ils vont demander le retrait de NoWatch.net des archives, enfin des annuaires des DNS américains, enfin des fournisseurs d'accès américains. Et si vous êtes aux États-Unis et que vous utilisez par exemple AOL, je suis sûr qu'il y en a d'autres, eh ben si vous tapez NoWatch.net dans votre navigateur, vous n'y accéderez plus. Alors évidemment, eux, ils voudraient l'utiliser pour des sites comme Pirate Bay, etc., ce genre de sites à torrent. Et d'autres aussi, hein, on peut imaginer des sites de contrefaçon qui vendent des produits contrefaits, des sacs Vuitton, ce genre de choses. Mais c'est tellement drastique comme mesure, et ça pourrait avoir des conséquences tellement énormes sur le fonctionnement d'Internet, parce qu'il y aurait des gens dans certains pays qui ont accès à certains sites, d'autres gens qui n'en ont pas. En gros, c'est les méthodes qu'utilise la Chine avec la muraille, le Great Firewall of China. Je vais vous passer la parole dans deux secondes. Je veux juste dire à Sebdu dans la chatroom qui dit ça ne passera jamais. N'en sois pas si sûr, Sebdu. Ils ont tellement de lobbying et ils ont tellement de puissance auprès des parlementaires américains que si l'ensemble du web américain ne s'était pas soulevé et toutes les sociétés genre Google, Apple, Microsoft, etc. n'avaient pas envoyé des lettres ouvertes pour dire ça serait une catastrophe de passer cette loi, eh ben elle serait passée comme une lettre à la porte déjà aujourd'hui. Il se trouve que les discussions ont été allongées, mais il n'était pas du tout sûr que ça passe pas. Il était même plutôt sûr que ça passe. Ouais. Romain du 95, qui j'imagine est dans l'Ain ou l'Aisne, hein, quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout.
95.
Non, mais c'est une blague parce que tout à l'heure j'ai dit 75-018, c'est le cinquième. Bref, il dit dictature. C'est exactement ça. Et il y a l'un des, je me souviens plus de qui c'était, mais l'un des présidents de, je crois que c'était de la RIA, bref, d'une organisation américaine, qui disait. Je comprends pas, la Chine arrive très bien à faire ce genre de choses, je comprends pas pourquoi nous on pourrait pas. Et le type ne se rend pas compte.
C'est un exemple de démocratie à suivre.
Exactement. Il se rend pas compte à quel point c'est une énormité monstrueuse. Et en plus, même si on suit l'intention de la loi et qu'on se dit bon, dans ce genre de cas peut-être ça pourrait marcher, il y a pas de raison, quand on sait à quel point il y a des abus de ce type de procédé, ce type de processus légaux, c'est donner un 45 à un enfant de 3 ans, quoi. C'est suicidaire. Et donc, moi, je m'énerve quand je parle de ce genre de choses, je suis complètement remonté. Mais j'imagine que. J'imagine que c'est votre cas aussi.
Ce qui fait encore plus peur, c'est que finalement, cette mesure, si cette loi est votée aux États-Unis, mmh. elle peut avoir des répercussions sur l'ensemble de la planète. Parce que si ils bloquent les référencements de sites, a priori, c'est planétaire. Et donc,
non, c'est juste chez les DNS américaines.
Oui, mais ça veut dire que ça peut dépasser les frontières des États-Unis.
Ah bah ça veut dire que si jamais ils bloquent nowatch.net avec ce système, depuis les États-Unis, les gens qui auront un DNS, enfin un fournisseur d'accès américain, ne pourront pas y accéder, mais les autres personnes du monde pourront y accéder. C'est comme la Chine qui bloque Twitter, tu vois,
ou la Tunisie. C'est pas au niveau route des DNS, c'est vraiment chez les failles comme on fait en France avec l'Argel et le blocage des sites de jeux qui n'ont pas payé la licence.
Exactement.
Mais ça veut quand même dire que tu pourras.
Ça créerait un internet à deux vitesses.
Dans le cas où ça passe, accéder malgré tout au site avec les adresses IP ou pas?
Ah ben bien sûr, oui. Ouais. Les adresses IP fonctionnent quand même et il y a déjà des gens qui se mettent à archiver toutes ces données et à deviser des systèmes pour pouvoir accéder facilement en tapant le nom d'un site à son adresse IP. Il y a des gens qui se mettent à activer des DNS déjà en préparation d'autres DNS parce que si la DNS Donc cet annuaire de votre fournisseur d'accès n'a plus en référence certains sites, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, enfin vous pouvez toujours utiliser une autre DNS, mmh. et cette autre DNS pourrait en théorie avoir accès à tous les sites. Donc ça créerait un bordel effroyable, quoi.
C'est quand même assez hallucinant de pouvoir avoir des idées pareilles. Enfin, c'est la seule réponse qu'on trouve à.
C'est pas la seule,
la piraterie, appelons ça comme ça, mais enfin c'est quand même assez affligeant.
Corben, c'est
non, mais enfin c'est la suite logique de toi. Enfin moi je suis de plus en plus blasé sur ces conneries, mais enfin quand on dit ça passera jamais, on disait ça aussi d'Adopi et c'est passé, ouais. quoi. Mais heureusement que les grosses boîtes se bougent, quoi, parce que sinon on serait déjà cuit. Mais moi là derrière, en fait, ce que je vois plus que cette histoire de pirates, c'est aussi soutenu par les politiques pour après reprendre la main. Politiquement, quoi. Je veux dire, c'est le problème avec ce genre de truc, c'est que on se dit ouais c'est bien, c'est pour la création, c'est pour la contrefaçon, c'est enfin voilà, mais au final après on se retrouve dans une espèce de liste noire à l'étranger, enfin voilà, bloqué aux États-Unis ou même en France, hein, mais sur lesquels on n'a aucun moyen, et ça peut tuer des business, ça peut vraiment faire du mal, quoi, et pour en sortir après c'est impossible, quoi.
C'est un peu l'équivalent de ce qu'a été le Patriot Act. Finalement, ça part d'une bonne intention, mais les applications après en font quelque chose de totalement invivable.
C'est marrant parce que j'écoutais Polygeek il y a, je sais plus, 2 jours, et j'entendais aussi cette sorte de, peut-être un petit peu plus accentuée, une sorte de théorie du complot, où il disait et il parlait des révolutions arabes, hein, qui était un sujet bien sûr très très sérieux, mais il disait pareil, en France on essaye de nous faire passer des lois soi-disant pour combattre la piraterie, mais en fait c'est l'État qui veut reprendre la main sur Internet avec cette idée d'Internet civilisé, et l'État veut nous habituer à cette idée que Internet est surveillé pour ensuite surveiller partout sur Internet et établir une sorte de dictature sur Internet.
Le problème, c'est pas qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas.
Ouais, c'est exactement. C'est-à-dire que, à mon avis, il n'y a pas cette intention au départ. Il n'y a pas du tout l'intention par les sénateurs américains et les parlementaires américains aujourd'hui de se dire « Ah oui, on va commencer comme ça, et comme ça, discrètement, en fait, on pourra faire fermer n'importe quel site. »
C'est les effets pervers.
C'est une fois que cette loi est mise en place, là, effectivement, la porte est ouverte. Et le jour où il y a un truc qui ne plaît pas à quelqu'un, il se dit « Oula, attends, un avocat un petit peu intelligent se dit « Bon, je peux trouver une raison pour laquelle, là, ça contrevient à tel contenu protégé, et donc je vais le faire fermer comme ça. » Mais je pense sincèrement que c'est un petit peu théorie du complot de se dire « C'est pour ça qu'ils le font à la base. » Par contre, le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas les conséquences de ce qu'ils font, et que les conséquences, c'est ça, effectivement.
Le retour de Manivelle risque d'être un petit peu sévère et violent, quoi.
Et là, c'est bien pire que Adopi, parce que Adopi, c'est très chiant, et ça va à l'encontre de l'idée que Internet est un droit fondamental, ce que je crois la plupart des gens acceptent aujourd'hui, au même titre que l'eau ou l'électricité, je veux dire, tout le monde a droit à avoir ça. Là, c'est une étape au-dessus, quoi. C'est encore pire. Donc.
Ouais, puis non, mais c'est un tellement grand pouvoir que après les mecs, on peut pas savoir qui va faire quoi avec ça, quoi.
Le problème, c'est que, comme tu disais, un avocat un petit peu tricky. Qui travaille pour une boîte X dont le concurrent, il découvre un truc un tout petit peu borderline chez le concurrent de la boîte pour laquelle il bosse, il peut l'exploiter à fond et faire finalement déréférencer le site concurrent juste sur un truc comme ça.
Bien sûr.
C'est quand même puis il y aura toujours des abus. Je veux dire, on peut faire des écoutes téléphoniques parce que c'est prévu par la justice pour les enquêtes policières, etc. Il y a eu des abus aussi là-dessus. Enfin, voilà, il y a des abus dans tout, c'est normal, mais là c'est tellement énorme que, enfin, si ça passe, et ça peut être contourné, c'est ça le pire, c'est que ça peut être contourné, donc ça va encore remonter le niveau.
Je veux dire, ça va évidemment pas
arrêter la bazar.
C'est un truc qui est tellement idiot que j'ai même pas pensé à le dire. Il est évident que ça va pas arrêter la piraterie.
Enfin, ça va pas arrêter la piraterie.
Disons que ça va pas. Ouais, ça va pas arrêter les vrais pirates. Ça va juste faire chier le petit mec qui sort pas du MIT, qui sort comme ça normalement et qui va avoir vachement de mal à découvrir des nouveaux sites, voilà.
Pendant un certain temps, parce qu'après les mecs, vont trouver un logiciel simple, ou vont trouver un truc technique simple pour contourner la censure, etc. Non, c'est vraiment complètement inutile. Et le pire, c'est que ça va remonter le niveau de. Enfin, je veux dire, après les mecs vont commencer à utiliser des VPN, des choses comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, ils vont interdire les VPN, ils vont surveiller si tu tiens un VPN, ils vont te foutre une amende, ils vont se rendre compte. Voilà, le deep packet inspection. Enfin, voilà, ça va remonter encore le niveau de surveillance, justement, pour contrer à tout ça, et ça va être de pire en pire. Et le problème avec le VPN aussi, c'est qu'Internet, c'est quand même un réseau maillé où l'idée, c'est d'accéder à un contenu sans faire 5 fois le tour de la planète. En utilisant du VPN, on fait 5 fois le tour de la planète.
Ça, c'est encore un problème,
mais ça dénature aussi l'idée d'Internet, la qualité des transmissions. Enfin, voilà, c'est pas terrible, quoi.
Il y a une chose, pour ramener un petit peu la chose à la France encore plus, une chose qui m'a beaucoup marqué, je dirais, c'est à quel point dans les débats pour Adopi, on n'a pas réussi à se faire entendre, nous, technophiles et les personnes qui savaient pourquoi c'était problématique, on n'a pas réussi à se faire entendre. Heureusement, maintenant l'Union européenne a déclaré que Internet était un droit fondamental, etc. Donc ça risque de péricliter, mais... Aux États-Unis, quand cette loi a été présentée et qu'elle a fini par être débattue, il y a eu une levée une sorte de mouvement populaire. Bon, les gens ne sont pas descendus dans les rues non plus, mais il y a eu énormément de sociétés qui ont envoyé des lettres ouvertes. Il y a eu des pétitions qui ont été signées par plus de 80 000 personnes. Enfin, le public concerné a vraiment pris la chose à bras le corps et a réussi à se faire entendre. Et c'est très bien, bien sûr, mais ça m'a un petit peu déçu rétroactivement qu'on n'ait pas réussi, nous, à faire autant de bruit pour les problèmes d'Adopi. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va marcher parce que, comme le disaient certains, de toute façon, Washington, ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faudrait, c'est que les sociétés qui ont des intérêts là-dedans, c'est-à-dire Google, Apple, Microsoft, etc., se mettent à payer des lobbyistes, comme le fait tout le monde, parce que c'est pas en violent.
Je pense qu'ils le font.
Voilà, exactement. Mais pas assez, pas beaucoup, et pas beaucoup du tout. Tu sais, c'est public, ces données. Et ils le font beaucoup, beaucoup moins que la RIA, la MPAA, qui en plus, à côté de ça, le fait qu'ils n'aillent pas bien, entre guillemets, n'est même pas prouvé, ils perdent moins d'emplois que le reste de l'économie américaine, ils font encore des millions et des millions au box-office, enfin, il n'est pas du tout prouvé que la piraterie fasse perdre de l'argent à ces sociétés. Enfin bref, il y a tout un... Bon, bref. Moi, je voulais juste dire que aux États-Unis, ils se sont mobilisés et nous, on n'a pas réussi à le faire et c'était
une différence de culture aussi. Aux États-Unis, ils sont à fond liberté d'expression, on touche pas, c'est dans la Constitution, je sais pas quoi. Enfin, ils sont très très portés là-dessus, faut pas y toucher. Nous, en France, les gens sont un peu mous du genou là-dessus.
Je crois qu'on a moins de gens qui connaissent, quoi. On est un petit peu.
Et voilà, c'est ça, Internet, piratage, les gens s'en foutent. Enfin voilà, quoi.
Bref, pas simple ce problème-là.
Voilà. C'est sûr.
Première burgerie.
Mignonne. Donc oui, retenez SOPA et quand vous verrez ça quelque part dans la section tech du Figaro ou du Monde demain, il faut s'y intéresser un petit peu parce que c'est important, même si ça nous concerne pas directement.
C'est quand même soutenu par les ayants droit français aussi. Donc,
bien sûr, ils voudraient instaurer ça ici, oui, bien sûr.
Ça nous concerne.
Et d'ailleurs, on va continuer dans les trucs complètement hallucinants par rapport au copyright, avec cette histoire de chansons de méga upload bloquées, éradiquées de YouTube. D'ailleurs, tiens, ma référence dans le document de préparation, c'est un article de Corben, tiens, c'est un petit jeu.
Hola, on va faire la hola, c'est parti.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que Mega, il y a Mega Upload, Mega
vidéo.
Merde. Méga vidéo. Méga... Bah, je les... Sincèrement, je les connais pas du tout. Je n'utilise pas ces trucs-là. Mais c'est des services d'échange de fichiers et de téléchargement direct qui font pas mal de bruit depuis Adopi, justement, parce que Adopi ne surveille pas les téléchargements directs. Donc, le principe est le suivant. Vous uploadez un fichier sur Mega Upload et ensuite ça vous donne un lien qui permet à n'importe qui, une personne à qui vous donnez ce lien, d'aller retélécharger le fichier. C'est du téléchargement direct qui est de pair à, enfin de serveur à client, donc qui n'est pas surveillé par Adopi et qui a beaucoup de succès en ce moment, couplé au VPN, parce que ça permet d'être, de ne pas être détecté par Adopi. Donc beaucoup de gens se sont tournés vers ces services pour pirater. Soyons clairs, c'est un petit peu comme BitTorrent, même s'il y a des utilisations légitimes, c'est quand même pas mal utilisé pour pirater, hein, je dis pas de bêtises.
Mmh. Oui, oui.
Mega, qui est la société en question, a créé une chanson. Une chanson qui s'appelle la Mega Song. Ils sont allés voir plein d'artistes, genre Will.i.am, P. Diddy, qui est hyper anti-piratage, il est complètement, enfin, il gueule comme un fou dès qu'il y a des questions de piratage, il est vraiment remonté. Plein d'autres artistes, ils ont créé une chanson qui est, comment dire,
nulle.
Qui est vraiment pas très bonne, on va dire, mais c'est
ouais,
une chanson
qui fait
à
le
eux.
Buzz.
Qui fait le buzz. C'est une chanson à eux qu'ils ont créé avec un petit clip vidéo en disant Mega Upload, c'est super bien. Ils ont payé les artistes en question pour faire une prestation, donc pour chanter le truc en question.
Ils n'ont pas chanté. Ils ont... hein. Attends.
Oui,
attends.
Ils le disent. Ils disent Mega Upload, c'est super bien. Moi, je l'utilise pour envoyer mes fichiers. C'est rapide, c'est bien. Enfin bref, ils lisent. C'est une pub, quoi. C'est un truc qu'ils
oui,
ont,
c'est ça,
ouais.
ils ont lu.
Ils ont lu ce qu'on leur disait de lire, ils se sont fait payer, ils ont signé un papier disant « Vous avez le droit d'utiliser mon image pour ça ». Voilà, c'est une pub, c'est normal, il y a plein de gens qui le font. Et ensuite, Mega en a fait une chanson qu'ils ont uploadée sur YouTube. Certainement que certains artistes ne savaient pas exactement ce qu'était Mega Upload. On peut imaginer que certains n'étaient pas tout à fait au courant que c'était une sorte de figure de proue de la piraterie. Mais il n'empêche, ils ont signé leurs droits. Ils ont autorisé le truc. Bon.
Voilà.
On fait fast forward, la chanson arrive, et donc le résultat, c'est que si on lit un tout petit peu entre les lignes, on voit que certains des plus grands artistes du monde, hein, des Américains, chantent une chanson à la gloire d'un service qui est principalement utilisé pour la piraterie.
C'est énorme.
Forcément,
moi, j'ai trouvé ça énorme.
Forcément, ouais. Quand on a vu ça arriver. Ça a fait un petit peu rigoler tout le monde. Universal Music Group a pété les plombs et tout à coup, au bout de 2 heures, la chanson avait disparu de YouTube, hein, principalement. Alors là, Mega se dit mais merde, qu'est-ce qui se passe? On a pourtant les droits. Ils ont assuré, on a les droits de ce morceau, de ce truc. C'est une chanson à nous. On a tout payé. Il y a aucune raison que quelqu'un utilise le DMCA. Pour la retirer. Alors souvenez-vous, hein, DMCA, si on a une vidéo qui utilise des trucs qui nous appartiennent, on a le droit de le faire retirer de YouTube. Et là, ils disent, c'est pas, ils devraient pas pouvoir utiliser le DMCA. Comment est-ce qu'ils ont fait ça, quoi? Et on va se battre pour le faire revenir. Entre-temps, ça commence à faire un petit peu beaucoup de bruit. Il y a le fameux Streisand Effect de Barbara Streisand qui avait voulu faire retirer des photos, je crois, d'un site. Et l'effet que ça avait eu, c'est que ça avait mis un coup de projecteur dessus et que tout le monde en avait énormément parlé parce que c'était une
et qu'elle avait menacé de rechanter.
Et là, tout le monde
c'est
sait
ça. Voilà.
Et donc, en l'occurrence, il y a eu un petit peu le même effet. Tout le monde a commencé à parler de cette méga song, et notamment Tom Merritt sur TNT, une émission à laquelle je participe parfois, du réseau Twit en anglais, en a parlé. Et son analyse d'une émission d'information utilisait une toute petite partie de la vidéo en question. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des processus automatiques qui analysent les informations, les vidéos et les morceaux de musique sur YouTube. Et l'épisode en question s'est fait retirer. Alors, ça arrive de temps en temps quand ils utilisent dans leurs émissions des morceaux un petit peu longs ou juste pour illustrer quelque chose. Sauf que là, c'était complètement ce qu'on appelle le fair use, le droit juste, on va dire, parce que c'était un commentaire d'information, une émission d'information. Et si on attend 10 jours pour faire revoir la décision, évidemment, l'information n'est plus valide. Donc c'est un dommage excessivement important, et financier bien sûr pour la société qui fait ça, mais surtout au niveau de l'éthique journalistique et du droit à l'expression, du free speech. Alors, toute cette histoire a continué à évoluer, et déjà, les gens étaient remontés contre l'Universal Music Group parce qu'ils avaient utilisé le DMCA pour faire retirer une chanson à laquelle ils n'avaient pas les droits. C'était déjà tout à fait scandaleux. Et en fait, on a appris au bout de 4-5 jours que, par un courrier de Universal Music Group, où ils ont dit, on a appris le poteau rose, ils ont dit, ah ben non, pas du tout, c'est pas le DMCA qu'on a utilisé. En fait, on a un accord avec YouTube, un accord secret entre guillemets, qu'ils ont passé parce que YouTube voudrait avoir les droits pour d'autres services, je sais plus comment ils s'appellent, Vimo, un truc de vidéo de Google. Et donc, on a un accord avec YouTube qui nous autorise à faire supprimer de YouTube n'importe quelle vidéo sous certaines conditions secrètes dont personne ne connaît rien. Et voilà.
Recette est au fond d'un puits.
Voilà, exactement. Voilà. C'est Vivo, merci la platine.
Moi, de ce que j'ai compris, c'est Vivo, le service. Parce que c'est leurs artistes, ils ont des contrats d'exclusivité avec eux, et du coup, ils ont le droit de retirer les choses sur lesquelles ils n'ont pas donné leur accord. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Après,
alors YouTube, RAM, quoi. YouTube a effectivement expliqué, non, c'est pas n'importe quelle vidéo, c'est les artistes qui sont signés chez Universal Music Group, et c'est les performances en live de ces artistes-là, et c'est ce cas précis. Et d'ailleurs, ils ont rétabli la vidéo, ils ont rétabli TNT, ils ont tout remis. Mais il n'empêche que cet accord secret bizarre, là, dont on ne connaît pas toutes les conditions, a fait tourner le sang du web entier en une demi-seconde. Et c'est, enfin, pour moi, en tout cas, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Je n'en peux plus. Jusqu'où est-ce qu'on va aller pour protéger une industrie moribonde qui ne sait pas et ne veut pas s'adapter, qui, comme je le disais tout à l'heure, oui, il y a moins de disques qui se vendent, mais est-ce que c'est la piraterie ? Il y a encore une étude qui est sortie selon laquelle le budget de distraction des ménages ne baissait pas. C'est juste que si tu pirates un morceau, tu vas aller dépenser ton argent dans un autre DVD, par exemple. Alors ouais, oui, je suis pas du tout en train de légitimer la piraterie. Mais ce que je dis, c'est que à quel point, jusqu'où on va aller, jusqu'où on va sacrifier de nos droits et de nos libertés et des principes, enfin, et des, ne serait-ce que, même sans parler de droits et de libertés, des merveilles de la technologie, des merveilles du progrès pour protéger ces gens-là, c'est horripilant. Et moi, je suis tellement triste que les artistes soient presque pris en otage par ces sociétés qui ne font pas que s'engraisser, évidemment. Je veux dire, je veux pas trop généraliser non plus, mais ça coûte trop cher à maintenir toutes ces sociétés.
Quand elles ne sont pas adaptées, elles ne sont plus adaptées.
Quand on a une relation directe avec son public. Et j'essaye de les défendre. Enfin, il y a iTunes Match qui vient de sortir. Moi, je me suis abonné tout de suite. Je m'abonne à Spotify. Il y a des trucs. Enfin, tu vois, j'essaye de soutenir les artistes et je le fais. J'achète des trucs. J'achète des DVD. J'achète des Blu-ray. Mais là, c'est trop, quoi. C'est trop. Pour moi, c'était la goutte d'eau et je ne leur fais plus confiance. Je peux plus leur faire confiance. Je suis tout ce qui vient d'eux.
Un câble.
Non, mais c'est vrai.
Je rigole, ce mois-ci j'ai pété un câble il y a quelques mois et maintenant je suis passé de l'autre côté, quoi. Maintenant c'est bon, là. Enfin, je suis blasé. Les mecs, tu peux plus rien en faire. Ils sont partis en roue libre. Maintenant, faut qu'ils se cassent la gueule tout seul.
Mais exactement. Et voilà, le jour où ils se casseront la gueule, je vais pas verser une seule larme, quoi. Et c'est le pire, c'est que s'ils réussissent à perdre même des gens comme moi qui sont des consommateurs de musique et des amateurs de cinéma. Moi, je suis au ciné tout le temps. J'ai une carte UGC, tu vois, une carte UGC illimitée. S'ils réussissent à perdre des gens comme moi,
C'est dramatique.
Enfin, bon, pardon Christophe, j'ai
interrompu. Mais comme le disait la conclusion de cette très bonne vidéo d'ailleurs faite en illustration, enfin c'est vraiment très très bien. Je sais pas qui l'a faite, mais c'est, j'ai vu que JC Frog l'avait relayé cet après-midi sur Twitter pour expliquer ce que c'est réellement que la SOPA. Et la conclusion de la vidéo, c'était jusqu'où iront-ils ? Eh ben jusqu'où on les laissera bien aller.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut c'est peut-être à nous aussi citoyens et internautes de faire de la résistance. Et puis
On se bat, hein, mais c'est
on
chaud.
On se bat, ouais, je sais qu'on se bat et c'est pas facile. Mais effectivement, enfin c'est complètement délirant. On a l'impression d'être à la merci de robots décérébrés qui font 0 1 0 1 0 1 quoi.
Alors, c'est... pas tous, il y en a qui partent dans le bon chemin. Moi j'étais soulagé de voir que par exemple les éditeurs de livres e-book se lançaient en tout cas pour l'instant sur les traces d'Adopi, et heureusement parce que sinon c'était fini.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fini aussi pour eux quoi, mais non, mais c'est les petits j'en connais des petits ayants droit, des trucs comme ça, qui essayent de faire des choses un peu innovantes, de s'adapter au net, de revoir un peu leur modèle, etc. Mais les gros, oui, les gros sont puissants, les gros ont des lobbies, les gros vendent des CD depuis les années je sais pas combien, 80, et du coup c'est eux qui sont les plus difficiles à convaincre, enfin voilà, même si c'est plus la peine d'essayer de les convaincre maintenant.
Mais alors, au-delà de ça, moi, je serais bien curieux d'apprendre quand même ce que les responsables de Mega ont pu sortir comme argument aux artistes pour faire la promotion de Mega Upload quand même.
Bah,
c'est quand même, non mais attends, au-delà du chèque, parce que je pense
Pididi,
il a pas besoin d'un chèque quoi.
Non, mais tu rigoles, mais évidemment que c'est un chèque.
Mais attends, c'est une évidence. Le mec est pas complètement con, quoi. Enfin, c'est comme
Il connaissait pas, c'est tout. Il connaissait pas. Tu lui dis, je fais. Tu sais, ils font tout le temps des trucs du genre. Tu fais un
yaourt.
C'est comme c'est comme si tu demandais à un responsable de la sécurité routière de faire l'apologie des courses de dragster, quoi.
C'est là que tu te rends compte que les mecs ils vivent pas dans le même monde. Ils connaissent pas. Qu'est-ce que on leur dit tu te rends compte, il y a eu 70 millions de titres de PDD téléchargés. Le mec, il voit rouge, évidemment. Il comprend pas de quoi il s'agit.
Ouais, mais le mec, il a quand même déjà entendu forcément parler de Mega Upload.
Clairement, il l'a fait. Donc, je pense que non.
Il l'a fait. Il y a le fondateur de Mega Upload, là,
Kim.com, ouais.
Ouais, Kimble. Enfin, je sais plus son nom de famille.
Son surnom, c'est Kim.com.
Ah, c'était Kimble à l'époque, mais je me souviens plus.
Kim Jong-il.
Ça doit être ça, ouais. Il n'est pas mort. c'est un mec quand même qui a beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense qu'il connaît aussi beaucoup, beaucoup de monde. Donc, par des amis, il a peut-être réussi à convaincre les mecs. Après, les mecs, comme Pididi, tout ça, ils en ont rien à foutre. C'est les agents qui gèrent. Et en arrivant à convaincre l'agent, c'était bon. Il leur a fait confiance aveuglément. Et voilà quoi, de toute façon. Moi je pense qu'ils se sont fait avoir, mais après ils peuvent pas dire on s'est fait avoir, ils assument.
Ah bah non. Non mais en plus ils ont pas du tout dit on s'est fait avoir, hein.
Ils
ont tous fermé leur gueule, et même Will.i.am, dont UMG avait dit c'est en fait Will.i.am qui a pas donné son autorisation, machin. Il a envoyé un communiqué tout de suite, il a dit non, j'ai jamais autorisé qui que ce soit à retirer la vidéo en mon nom. Jamais de la vie. J'ai donné mon autorisation, voilà, c'était comme ça. Mega a dit, on a les documents signés de tout le monde. Les artistes, ils n'ont pas essayé d'entourlouper qui que ce soit. Hein. Et puis bon, on dit, voilà, les majors, elles vont pas disparaître. Et évidemment, il faudrait pas qu'elles disparaissent. Il y a il y a une juste mesure à trouver. On aura toujours besoin de certains qui vont, tu vois, il y a toujours des artistes qui voudront signer leurs droits au major et qu'ils se chargent de la promotion et de tel truc et de tel truc, et d'autres qui voudront faire les choses autrement. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de mafia de la musique qui fait que tu peux pas vraiment passer par ailleurs, quoi. On discutait il y a pas si longtemps du fait que 26% des droits de iTunes en France reversés à la SACEM, c'était encore un article de Corben, servent à payer le salaire du président de la SACEM.
Enfin, ça c'est quand même hallucinant. C'est pas une mafia, ça.
C'est invraisemblable. Ouais. C'est juste que le système n'est plus adapté au monde d'aujourd'hui. Donc
sur les vidéos, sur iTunes. Hein.
Oui, sur iTunes, oui. Oui. Et quand on dit que l'argent que rapporte, tu vois, on compte l'argent que rapporte un streaming de Spotify à un artiste, on dit voilà, c'est un centime tous les 1 million de downloads. Peut-être, mais moi ce que j'aimerais savoir, c'est sur cette somme, combien va au major et combien l'artiste touche ensuite. Il y a trop d'intermédiaires. C'est pour ça que ça marche plus.
Donc, les majors doivent.
Enfin, les majors devront toujours être là, c'est évident, mais c'est juste qu'elles doivent dégraisser un peu parce que... Enfin bref. Il y a un autre truc dont je voulais parler. Je faisais référence à une étude qui disait justement le budget de l'entertainment reste fixe dans les ménages. C'est la Suisse, en fait, qui a décidé qu'ils ne légiféreront pas sur le téléchargement illégal. Ils ont fait des études. Bravo. Et ils sont arrivés à la conclusion que, d'une part, il y avait toujours autant d'argent là-dedans. Que oui, il y avait un problème, parce que c'est évident, faut pas qu'on comprenne mal ce que je suis en train de dire, il y a un problème du piratage, c'est évident, c'est un problème, et la question n'est pas de fermer les yeux et de se dire que tout va bien. Par contre, la question est de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire raisonnablement, sans dépasser les bornes, pour aider à corriger ce problème? Et la Suisse est arrivée à la conclusion que les solutions qu'on pourrait essayer d'implémenter sacrifient trop de ce qu'on a acquis avec Internet et le progrès. Et ils se sont dit, bon, ben, en plus, il n'est pas du tout prouvé, voire même au contraire, que les pirates font perdre de l'argent aux ayants droit. Au contraire, parce que ce sont des amateurs, ce qu'on dit depuis toujours, ce sont des amateurs de musique vont ensuite acheter des choses ailleurs. Et donc, ils ont décidé, bon, ben, on ne légiférera pas. Ni Acta, ni SOPA, ni Adopi, ni rien du tout. On ne fait rien. Les choses marchent très bien comme ça. Alors, évidemment, comme me l'ont fait remarquer certains sur Twitter, c'est facile pour eux de dire ça parce qu'ils n'ont pas d'industrie qui dépend de tout ça dans leur pays. Oui, d'accord. Mais il n'empêche que ça veut dire qu'ils ont une vision peut-être un peu plus objective, je dirais.
À part les banques qui sont remplies des millions des artistes susnommés.
Ça, oui. Et une autre chose dont tout le monde dit une autre chose dont je voulais parler, c'était une initiative intéressante d'un comique américain qui s'appelle Louis C.K. Qui est un comique qui fait des spectacles et qui a une émission sur HBO, une comédie sur HBO.
Très, très bonne d'ailleurs.
Je sais pas, moi je la connais pas.
C'est vraiment excellent. Je pense que ça te plairait beaucoup. C'est du stand-up vraiment.
Bah, écoute, c'est quoi l'émission?
Alors lui, il s'appelle Louis.
Ah, mais il y a une série.
Ouais.
Et Louis avec un E, la série.
Voilà. Et il a fait donc une sorte d'expérience. Il a dit, écoutez, moi je fais un spectacle sur scène, hein, ce stand-up comédie qui est très connu aux US. Et il a dit, je vais le faire filmer. Alors il a payé la production de sa tournée, enfin la production d'un film fait sur un de ses spectacles pendant sa tournée. Ça lui a coûté un peu cher. Il l'a monté lui-même sur son MacBook et il l'a vendu sur Internet pour $5 en fichier version je télécharge et j'en fais ce que je veux, 0 DRM. Et il a dit, bon, je sais que vous allez la pirater, je sais que ça va se retrouver sur BitTorrent, machin. Bon, bah, c'est pas grave. Venez sur mon site, $5, vous le téléchargez. Moi, ça m'a coûté $170,000 à faire tourner, plus $25,000 pour faire le site, pour que ça tourne bien, pour que vous puissiez télécharger aussi. Et voilà, je vous le propose et vous faites, si vous voulez le payer, vous le faites. Bah moi j'y suis allé, j'ai payé. Et l'un des trucs qu'il disait, c'est ah bah oui, mais au moins comme ça, je le mets sur le site. Même si vous êtes dans un autre pays, machin, on s'en fout. Vous faites ce que vous voulez, vous me le
vous, ça, c'est vous
téléchargez quoi. Et mais moi j'y suis allé. $5, c'est rien du tout.
Ouais, il prend un risque, mais c'est un risque, c'est un risque gagnant parce qu'il y a quand même 100 000 personnes qui ont payé.
Ouais.
D'accord.
Donc il a gagné, enfin il a gagné $500,000. Si tu retires les frais de production, il a fait grosso modo, je crois, à peu près $200,000 de bénéfices.
Voilà.
Et
ce qu'il disait lui-même, c'était j'aurais fait beaucoup plus en signant mes droits, mais ça aurait été compliqué. Ils seraient d'abord passés sur HBO, puis machin, puis ici, puis truc. Et là, il peut toujours le vendre aussi sur HBO s'il veut, quoi.
Et surtout, ce qu'il disait, c'est que s'il l'avait filé à une major pour se charger de la commercialisation du truc, c'est pas $5 par personne que ça aurait coûté, c'est 20.
Ouais, exactement. Voilà.
Oui.
Alors, si ça vous intéresse, bien, avant le commentaire de Corben, c'est sur buy.louisck.net, buy.louisck.net, et vous pouvez télécharger le spectacle. Il paraît que c'est super drôle. Moi, je l'ai downloadé, je l'ai pas encore vu, mais je le regarderai bientôt.
Il y a plein d'artistes pour qui ça marcherait pas parce que c'est des choses qui sont poussées par les majors qui sont un peu de la soupe et personne n'achèterait. Après, pour des gens comme lui ou d'autres qui ont réussi
Jonathan
à créer
Colton ou d'autres,
l'affectif avec leur public et bah, c'est ça, ça marche à l'affectif. T'as envie de récompenser ce mec parce que t'as envie de payer son truc parce que tu l'aimes bien, parce que c'est un mec normal, parce que voilà, il l'a mérité quoi. Donc et pour eux ça marche ouais. Donc moi franchement c'est bien. En plus ça permet de faire un espèce de tri entre les artistes marketés bidons qui rentrent dans la tête des gens parce que ça passe en pub ou en clip toute la journée
et qui existeront toujours hein,
qui existeront toujours mais bon voilà et les vrais artistes qui vivent qui essaient de vivre de ça qui se donnent tout entier qui bossent vraiment
ça. Ça se rapproche un peu de la démarche de ce qu'avait fait Radiohead il y a 2 ou 3 ans c'est-à-dire que le pendant de ça, c'est que moi je trouve que c'est une super idée. Hein. Honnêtement, je trouve que c'est vachement bien. Le truc, c'est que Louis C.K. il est déjà connu.
Alors c'est ce que disent plein de gens. Ouais. Je te laisse finir.
Il est déjà connu sur les networks. Donc effectivement, quand il fait un truc comme ça, il est à peu près sûr de que pas mal de gens vont suivre parce que les gens le connaissent, les gens savent que ça va être un truc de qualité, ils sont prêts à mettre $5. Par contre, ce mec-là, en fait, s'est servi il y a quelques années des mainstream, enfin des canaux classiques pour se faire connaître. Maintenant, il peut s'en détacher parce que aujourd'hui ses ailes sont assez solides pour qu'il puisse voler de lui-même. Mais finalement le revers pernicieux de ça, c'est que derrière un jeune artiste qui lui n'est pas connu, s'il veut faire la même chose, ça risque de pas marcher aussi bien parce la notoriété d'un Louis C.K.
Mais ça c'est bien sûr
un énorme problème, c'est certain. Il y a plusieurs choses que je voudrais dire à ce propos. D'abord, un artiste qui n'est pas connu, il va chez une major, il va signer avec son sang son premier contrat. C'est une avance qu'il va avoir, qui va être... en gros, un artiste ne touche quasiment jamais d'argent de son premier album. Et même sur les suivants, c'est vraiment difficile. Les artistes font l'argent sur les concerts. Et encore... Aujourd'hui, comme les majors sont en train d'en vouloir toujours plus, ils prennent maintenant même les droits sur les concerts. Alors, c'est vrai ce que tu dis, Christophe, et il y en a quelques-uns qui réussissent, mais je ne suis pas convaincu qu'il est impossible de réussir sans les majors. Il y a des gens comme... Je connais qu'un seul vrai exemple qui a vraiment réussi, c'est Jonathan Colton, qui fait ses petites chansons, d'excellentes chansons comme Code Monkey, la chanson de Portal, etc. Et lui, il a jamais eu affaire à une major, il a sorti ses CD, il a mis des trucs. Enfin, il y aurait des trucs possibles à faire, quoi. Moi, je crois que
C'est pas impossible, c'est juste que c'est le chemin classique que tout le monde emprunte. Ouais. L'autre chemin est beaucoup plus difficile, ça prend beaucoup plus de temps, mais il est pas impossible et ça marche bien.
Il est pas impossible et surtout, moi je crois que la vraie solution c'est pas de se dire, comme je disais tout à l'heure, on va pas se débarrasser des majors, c'est pas la question. Le truc c'est que le rôle des majors doit changer. Tu vois, c'est que ou d'autres sociétés qui font les choses un petit peu différemment et qui ne demande plus à avoir une part aussi énorme du budget, enfin des recettes, parce qu'ils n'ont plus besoin de faire tout le boulot qu'ils avaient besoin de faire avant. Et aujourd'hui, la situation est bloquée parce qu'il n'y a que ces gens-là. Donc, ouais, c'est pas relié à tout ça. Hein. Bon, bref, enchaînons. Non, mais
c'est sûr que ce genre d'initiative est quand même encourageant. Ça prouve qu'il n'y a pas un chemin unique et
ils ont des problèmes aussi ces gens-là. Moi j'ai parlé, enfin je vais pas citer à qui j'ai parlé parce qu'il y a rien de fait encore, mais j'ai donné des conseils à une artiste, on va dire entre guillemets, qui m'a appelé au téléphone en me disant qu'elle voulait faire un peu un truc, voilà, proposer son œuvre au format électronique, et je reste assez vague, et qu'elle savait pas du tout comment ça marchait, quoi faire, quoi dire à son éditeur aussi ou son producteur, qui lui disait voilà, il faut vendre tel prix machin, ça va concurrencer tel type de format, parce que vendre en MP3 ou vendre en CD audio, ou alors même pour un livre vendre en format e-book ou format papier, ça, pour les éditeurs ou les producteurs, ça, enfin les ayants droit, ça se concurrence, alors bref, j'ai expliqué plein de trucs, et cette notion de vente libre, vous mettez le prix que vous voulez, etc., c'est quand même un gros challenge, quoi. C'est un c'est une prise de risque, mais il y a quand même des gens, des artistes qui se posent la question, quoi, de plus en plus. Alors oui, des artistes connus, mais ils ont aussi des freins de leur côté, parce que il y a les producteurs ou les éditeurs ou les ayants droit, enfin comment t'appelles ça, les sociétés là,
oui, les
majors qui leur ont fait confiance au début, qui ont cru en eux, qui ont investi sur eux, qui ont fait connaître, etc. Ils ont aussi une espèce de relation d'amitié avec eux, ont pas forcément envie de trahir, ils ont un peu la pression, ils veulent signer avec eux, même pour tout ce qui est numérique, ils pourraient très bien, un gros artiste pourrait très bien vendre ses MP3 comme ça sur son site, ça marcherait. Ouais. Alors que là,
non, et puis ça marcherait, oui et non. Il y a quand même un énorme outil de promotion qui est important à voir à la télé, à la radio, tout ça. Et je veux dire, il est évident qu'on va pas arriver dans un monde incroyable dans 10 ans où chaque artiste fera lui-même, tu vois, son truc, où il mettra lui-même ses MP3, il les uploadera sur Mega Upload. Enfin, c'est évident que c'est pas à ça qu'on va arriver, quoi. Mais...
Non, mais il y a des trucs ridicules. Genre, la dernière fois, je parlais de ça, je vais faire mon people là, mais je vais passer pour un mec qui se la pète, mais je m'en fous. J'en parlais avec Louis Bertillac juste par mail, et en fait, le mec, ça reste entre nous, sur certains de ses concerts, il file des clés USB avec le concert, vraiment le concert que vous venez d'entendre, et il a pas le droit de le faire normalement parce que il y a, enfin c'est toléré on va dire, mais il peut pas vraiment le faire officiellement parce que derrière il y a des droits, il y a la musique machin, sa concurrence, le CCD
qui passe par la SACEM, qui risque de lui tomber dessus.
Alors que c'est ses propres chansons, c'est un truc de fou. La SACEM, combien de fois elle casse les couilles à des artistes parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent de leurs propres chansons. Ouais. C'est n'importe quoi.
Disons que tous ces systèmes étaient complètement cohérents il y a encore 10 ou 15 ans. Et la SACEM a une utilité énorme, quoi. C'est un truc qui est vraiment, qui a pas été fait un jour avec des mecs, des cornes qui leur ont poussé en se disant, je vais essayer de d'enculer les artistes autant que je peux et je vais faire ça. Non, c'est pas ça. C'était un système qui était cohérent à l'époque, qui était censé, répondre à un problème réel. C'est juste qu'aujourd'hui, bon, bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais. Je suis vraiment énervé là sur le coup parce qu'il s'est passé tout ça d'un coup, ça faisait beaucoup, mais on peut aussi parler calmement, ça peut arriver même de ces sujets-là. On le fera une autre fois.
Vous nous avez énervé, Patrick, c'est malin.
Voilà, il va faire l'attention.
Ça arrive pas souvent, hein. D'habitude, je suis relativement...
Il prend ses pilules.
Bon, rapidement, 3 infos supplémentaires. WebOS passe en open source et on aura des tablettes HP dès 2013. Super bonne nouvelle, non?
Mais alors, quand est-ce que ça va terminer cette valse hésitation chez HP?
Mais ça y est! Ça y est, là, c'est terminé. Ils ont pris une décision. C'est open source.
Attends, ils ont pris cette décision jusqu'à la prochaine. C'est-à-dire.
Oh, t'es mauvaise langue.
On lance le touchpad. Ah, puis non, finalement, on l'arrête. Ah, ben non, finalement, on le vend un peu moins cher. Ah, puis non, finalement, on l'arrête. On arrête aussi de soutenir notre webOS.
Ils ont pris quelques semaines pour prendre la décision. Il est possible aussi que personne n'ait voulu de WebOS. Donc, ils ont fait la seule chose cohérente qu'ils pouvaient faire. Et c'est une chose cohérente, c'est le passer en open source, le donner à une communauté qui va pouvoir le faire vivre et le faire évoluer. Et eux, ils vont continuer à faire des tablettes avec ce système. Moi, je pense que c'est la meilleure solution qu'on pouvait espérer.
Nokia fait ça avec Mimo. Je crois que c'est open source aussi, si je dis pas de
bêtises. Oui, mais Mimo,
ça a pas vraiment marché. Hein.
Non, c'est sûr. Ah bah peut-être que WebOS disparaîtra. Oui, c'est possible.
Mais... On verra. Mais c'est une bonne nouvelle.
Mais la meilleure chose, ça garantit pas le futur de WebOS. C'est sûr que c'est la meilleure chose qui pouvait se passer, je pense. Bon. Autre nouvelle, le deal. Alors pour ceux qui savent pas, Firefox, qui est un navigateur alternatif, non pas vraiment alternatif, l'un des plus populaires du monde, très récemment seulement doublé par Chrome, générait une immense partie, enfin tous ses revenus quasiment par le deal qu'ils avaient. Voilà, 84%, merci Christophe, par le deal qu'ils avaient avec Google, c'est-à-dire que Google était le moteur de recherche par défaut dans le petit champ de recherche en haut du navigateur, et pour ça, Google payait pour avoir cette exclusivité, et bien sûr, il payait quand les utilisateurs trouvaient des choses par cet intermédiaire. Eh ben, le deal arrive à son terme dans quelques semaines, si je ne m'abuse. Et il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah mon Dieu, maintenant que Google a son propre navigateur, ils ne vont plus vouloir soutenir Chrome, donc ils vont interrompre le deal. C'est peut-être un danger pour Chrome. » Évidemment, la question se pose...
Et Firefox est en feu, donc.
Pardon, un danger pour Firefox. D'accord, ok. Ouais, elle est moins bien, celle-là. donc Firefox a effectivement peut-être du souci à se faire. Oui et non, c'est pas aussi simple. Corben,
Firefox sont quand même beaucoup sponsorisés par Google. Et c'est vrai que c'est gênant quoi s'ils arrêtent de recevoir de l'argent de Google. Enfin, Google voulait tuer surtout Microsoft et Bing et tout ça, donc c'est pour ça qu'ils sont associés avec Firefox. Et pour l'instant, c'est pas leur intérêt changer. Ils vont, je sais pas trop si où ça en est. Ça, j'ai pas trop suivi. Peut-être que c'est en train
de basculer sur Bing. Hein. Mais...
Ça pose le problème de la survie. La survie financière d'une société dépendante du bon vouloir d'une autre société, c'est toujours problématique.
Bien sûr.
C'est-à-dire que le jour où le plus gros décide de fermer les vannes, le petit, s'il n'a pas assuré ses arrières, il est mort.
Alors j'ai eu des images avec le plus gros qui ferme les vannes, avec le petit, des présentations de Zapcast avec Christophe et Jérôme. Moi je dis ça, je dis... Jérôme ne ferme pas les vannes. Oui, non, c'est sûr. Alors là, il y a quand même eu une sorte d'ironie qui est que, a priori, Mozilla, donc qui est la société parente de Firefox, peut remercier Microsoft, en fait, parce que là où on se disait, Google va abandonner Firefox, en fait, la réalité est peut-être différente. Là, je fantasme un petit peu, mais je me dis qu'il n'est pas impossible que Firefox soit allé voir Microsoft, leur ait dit, Vous aimez les parts de marché dans les moteurs de recherche, dans le domaine de la recherche sur Internet. Si on vous mettait Bing en moteur par défaut sur Firefox, combien vous seriez prêt à payer à peu près, environ? Évidemment, ça intéresserait Microsoft énormément parce qu'ils chassent la part de marché. C'est leur but principal avec Bing, leur moteur de recherche à eux. Et là, j'imagine très bien les gens de Mozilla... retourner voir Google et leur dire « Dites les gars, c'est-à-dire qu'on aime bien notre accord là, mais il y a Microsoft qui nous a fait un chèque qui est quand même substantiel, je dirais. » Donc,
et la fiancée est assez jolie quand même.
Voilà, exactement. Donc on n'a pas encore le fin mot de cette histoire, mais je pense qu'il y a un petit jeu intéressant qui s'est joué là-dedans. J'imagine, je suppute complètement.
Sans fiction.
Voilà. Écoutez, la fin de nos grosses infos, on va passer rapidement sur notre sponsor. Enfin, on va vous parler de notre sponsor. C'est la boutique No Watch. La boutique No Watch, vous la connaissez. C'est une boutique où vous pouvez trouver tout plein d'articles en rapport avec vos podcasts préférés, je dis vos podcasts préférés parce que je sais que vos podcasts préférés, c'est des podcasts No Watch. Vous allez sur nowatch.net, vous cliquez sur le lien boutique et là, vous trouvez des t-shirts, des parapluies, des bonnets, des strings, des slips, de tout. Et vous pouvez non seulement vous vêtir avec classe et élégance, mais en plus nous soutenir, puisque évidemment une part des sommes engagées dans, par vos, vous-même en achetant des objets de la boutique nous revient à nous, podcasteurs, en tout cas à No Watch, et ça nous aide à continuer à produire les émissions qui vous plaisent. Et par exemple, ça nous a aidé l'année dernière à ouvrir le stand, enfin à faire le stand, à avoir le stand à la Comic-Con, et on espère bien y retourner cette année encore plus fort, encore plus beau. Donc on a besoin de vous et on vous remercie par avance de votre soutien, qu'il soit fait par ce billet ou par un autre. On termine l'émission avec les Zapinfos. Zap Info, c'est la partie où on passe rapidement sur les informations.
Ça rappelle quelque chose, en fait.
Ouais, n'est-ce pas? T'étais pas venu depuis deux ans, mais...
Toute relation en fait, avec une quelques... autre émission voilà. Précédemment enregistrée, mais c'est pas tout à fait fortuite.
Donc, c'est la partie où on parle très rapidement de certaines infos un petit peu plus mineures. Et moi, je l'ai décrite rapidement. Et si vous voulez commenter dessus, vous me dites « Bip, stop, arrête-toi, je veux dire un truc ». Et donc, on en parle. Première chose, Office arrive peut-être sur iPad, enfin non, arrive certainement sur iPad en 2012. Microsoft aurait décidé d'adapter plein de leurs applications mobiles et de leurs applications tout court, non seulement pour Windows 8 ou Windows Phone 7, et on l'a vu avec certaines applications comme SkyDrive, Kinectimals, Xbox Live qui sont arrivées sur iOS récemment. Et ils adapteront aussi Office sur iPad, et moi j'avoue que malgré tous les trucs super bien, genre Google Docs, OpenOffice, LibreOffice, etc., mine de rien, Microsoft Office reste un poids lourd à tous les sens du terme, bien comme pas bien, mais beaucoup de gens l'utilisent. Et si je peux avoir Office sur iPad, ça m'intéressera, je pense.
Bip, bip.
Allez-y.
Non, moi je voulais juste dire que je trouve ça très bien, la part de Microsoft, très malin, et je suis sûr que ça va marcher, ça va cartonner. Ouais.
Bip.
Christophe,
moi je me demande, est-ce que ça a la place de Microsoft aussi, et Office c'est pas plutôt sur les tablettes Windows 8?
Ah bah ils ont décidé d'être partout, ce qui est une politique très intelligente.
Voilà. Et puis moi je me dis quid de tous les utilisateurs qui ont déjà acheté et installé iWork par exemple sur leur iPad. Je vois mal.
Oh, ça va, t'as payé 7 euros pour Pages il y a 2 ans, tu vas pas.
Ouais,
mais
moi étant très content d'iWork, par exemple, je rachèterai pas Office.
Ah oui, oui, bah oui, bah très bien.
Alors c'est vrai que.
Non, mais ça dépend, ça se trouve, il sera pourri et je vais cracher
peut-être
dessus.
Peut-être qu'Office sera un tout petit peu plus professionnel, mais bon.
Disons que le gros avantage que pourrait avoir Office, c'est s'ils font des documents qui sont importables de la version desktop à la version. Parce que là, avec Pages, tu peux pas facilement importer et exporter une version.
C'est vrai que c'est chiant.
Tu vois, il y a des trucs comme ça.
Tu peux compter sur Microsoft pour tout synchroniser, à mon avis.
Je pense aussi, ouais. Info suivante, rien ne va plus chez RIM, même les voleurs n'en veulent pas. Alors c'est marrant parce qu'il y a eu une autre info qui est arrivée aujourd'hui qui contredit ça, mais en fait il y a visiblement des voleurs qui allaient voir à Manhattan les étudiants de l'université de Columbia ont volé des iPhones, enfin ils voulaient les téléphones des mecs, le mec lui a sorti un iPhone et l'autre lui a sorti son BlackBerry, il lui a dit ah non ça j'en veux pas, c'est de la merde. C'était bon, je schématise,
humiliation totale.
Alors en fait, je voulais vous parler des résultats catastrophiques de RIM et de BlackBerry et du fait que la société perd chaque mois des parts de marché et que mais bon, je me suis dit que cette info illustrait un petit peu mieux le propos, donc je vous l'ai servi comme ça.
Moi, j'ai une solution pour les possesseurs d'iPhone qui ne veulent pas attirer l'attention sur leur téléphone. Achetez-vous une coque en forme de BlackBerry.
C'est pas bête.
Et RIM qui s'est quand même fait chourer 1,7 million de dollars de playbook dans un camion, un semi-remorque aux États-Unis. Voilà.
Mais alors
le FBI est sur le coup.
Alors ça, franchement, effectivement, ils se sont fait voler un semi-remorque plein de leurs tablettes pourries qui se vendaient pas là. Moi, je me dis, ils arrivaient tellement pas à les refiler, ils se sont dit bon, alors notre camion sera là-bas, tu payes un mec pour aller le machin, et ils vont toucher l'assurance. Ah, exactement. Ça m'étonnerait pas du tout.
C'est un coup d'Apple.
Bon, qu'est-ce que tu veux qu'ils en foutent, Apple?
Les porte-clés.
Ouais, par exemple, ouais. Bon, info suivante, Napster est mort. Pour de vrai,
ah,
Napster, qui a commencé la révolution du peer-to-peer, qui n'était pas vraiment du peer-to-peer à l'époque. Ah, Corben a décroché. Napster est mort, 1999-2011. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. La société disparaît.
Moi, je me souviens avec nostalgie de mes premiers téléchargements à 56K. Où
ouais, sur Napster.
Un morceau prenait à peu près une heure à télécharger quand ça allait vite. Voilà.
Moi, je me souviens de soirées passées à, même pas à télécharger, mais juste à écouter des morceaux. Maintenant, les gens, parce que Napster, c'est quand même 99, ouais. Donc ça fait plus de 10-11 ans. Les gens qui avaient, disons, 5 ans à l'époque ne connaissent pas un monde sans ouais. musique universelle, quoi. Et moi, je me souviens d'une époque où, quand on découvrait cette possibilité d'écouter n'importe quel morceau de musique au monde, à n'importe quel moment, je m'étais fait une soirée où je retrouvais des trucs qui sortaient de nulle part des années 80. Enfin, c'était magique, quoi.
Et ouais, après, on écoutait ça sur... c'était quoi ce lecteur qui avait des...
Winamp,
bah oui, qui avait des visualisations absolument démentielles.
Incroyable,
et,
ouais.
Voilà, on se coachait des heures souvenirs à écouter nos MP3 ouais. là-dessus.
C'est vrai. Damien Rossel dit « J'ai commencé avec Kazaa, moi, Napster était déjà quasi mort. » Ouais, c'est vrai. Bon... info suivante, je sais pas si Corben va revenir, hein. Je sais pas où il est, s'il est dans sa campagne, mais
quand il a appris que Napster était mort, je crois qu'il est pleuré dans
il est tombé de sa chaise. iOS 5.1 autoriserait la communication des applications avec Siri, donc peut-être que vous pourrez dire bientôt Siri, lance-moi l'appli, je sais pas, bref, que vous
lance-moi,
pourrez voir
lance-moi Microsoft Office, Word sur
voilà,
mon iPad
par exemple. Donc ça arriverait avec le 5.1 qui peut-être arriverait avec l'iPad 3 qui lui est selon les rumeurs prévu pour le début de l'année, peut-être février, une annonce en février avec un écran Retina, donc double résolution. De plus en plus d'indices sur l'Apple TV qui serait elle aussi contrôlée avec Siri. Ça serait cette interface révolutionnaire, ça serait le Siri. Donc, on parlerait à sa télé plutôt que d'avoir une télécommande avec 72 000 boutons. On aurait juste l'interface de la voix, peut-être même avec des gestes, genre un truc à la Kinect. On pourrait aussi intégrer les gestes dans le contrôle de la télé. Ça t'excite, toi, une télé Apple, Christophe ?
Eh ben, écoute, de ce que j'ai lu cet après-midi sur ces rumeurs, hein, puisque pour l'instant, il faut toujours parler de rumeurs.
Ouais.
Le fait de commander ta télé grâce à Siri, je pense que ça présage de bonnes soirées animées dans les chaumières entre papa qui dit Siri, match de foot, maman qui dit non, plutôt Starac, et les enfants qui zappent sur les dessins animés. Donc je pense que on dit que la télé tue le dialogue dans les foyers, et ben là on va retrouver un certain dialogue,
ouais.
Pas forcément avec des mots très sympathiques qui voleront à travers le salon, mais bon, voilà. Sinon, plus sérieusement, je trouve ça assez sympa de ce que j'en ai lu, c'est que en fait la télé sera complètement compatible avec tous les devices Apple, et que du coup tu pourras commencer à voir ton film ou ton émission sur la télé, sur la télé qui trône dans le salon, et puis à n'importe quel moment demander à Siri de le balancer sur ton iPad pour aller terminer dans la cuisine en continuant à regarder ton film. Et ça, je trouve ça génial.
Effectivement, ça marcherait. Alors, il y a déjà ça avec AirPlay, mais là ça marcherait sur absolument tout, quoi. Ça serait pas mal, effectivement. Information suivante, on continue sur plus ou moins Siri et les trucs liés à Siri. C'est le concurrent de Siri qui serait en cours de développement par Google, qui s'appellerait Magel. Est-ce que tu sais pourquoi il s'appellerait Magel ?
Ouais.
Ah merde, t'as lu la news, hein.
Eh ouais, parce que c'est Majel Roddenberry, c'est ça ?
Exactement.
Qui prêtait sa voix, en fait, à l'ordinateur de bord dans Star Trek. Et donc, par référence, Google nommerait son système comme
ça. Bien joué. C'est marrant, il y a toujours des petits trucs super geekeux chez Google. Quoi qu'ils fassent, tu sens que c'est des mecs... Enfin, c'est vraiment des geeks dans l'âme, quoi.
Je trouve ça vraiment, vraiment bien, quoi. Et je trouve que c'est normal aussi que Google développe un concurrent à Siri, puisque Siri... ne nous voilons pas la face, c'est quand même un moyen, à mon avis, qu'Apple déploie pour faire concurrence à Google.
Pour faire la Wii, même... parce que c'est ce qu'on disait l'autre fois. Eh
oui,
si tu recherches un truc avec
Siri, construire la plus grande base de données de recherche concurrente à Google.
Bah, c'est pas tellement la question de la base de données, c'est surtout la question que quand tu fais une recherche avec Siri, ensuite tu vois pas si ça passe par Google ou ailleurs.
Exactement.
Donc ça pourrait tout à fait éclipser Google. Ouais.
Je suis revenu.
Ah,
c'est ça, ça y est,
tu t'es consolé de la mort de Napster.
Voilà.
Bah écoute, on a une autre news musique. C'est vraiment musicologique cette émission. Hein. On a tout ça et aujourd'hui Spotify.
Oui.
Aujourd'hui. Maintenant Spotify. En fait, Spotify a annoncé il y a une semaine leur fameuse nouvelle direction là. En fait, c'est qu'il y a, avec la prochaine version de Spotify qui est déjà disponible en bêta, des apps à l'intérieur de Spotify. C'est un petit peu bizarre au premier abord, mais en fait, c'est hyper malin. C'est-à-dire qu'ils ont déjà les accords avec tous les majors pour toute la musique du monde. Et là, ils permettent aux développeurs de créer des apps dans Spotify de manière à ce que si certains veulent créer des trucs de musique, enfin de musique, de radio par exemple particulier, ou certaines autres sociétés veulent utiliser ça pour comment dire. Bref, des apps quoi. Il y a plein de choses qui sont possibles.
Il y a des apps pour faire du karaoké. Il y a des apps.
Ils ont pompé l'idée aux clients BitTorrent, uTorrent. Ils font ça aussi. Maintenant, on peut faire des apps à l'intérieur du client et t'as accès. Soit t'as des espèces de chaînes, t'as accès à des séries, des trucs comme ça qui sont des séries sponsorisées entre guillemets par BitTorrent. Soit t'as d'autres trucs. Quoi. T'as des applications. Enfin, il y a des petites choses sympas quoi.
D'accord.
Moi, je me demandais en lisant la news cet après-midi, je me demandais s'ils vont s'arrêter juste à des apps musicales, ou est-ce qu'ils vont, si l'expérience marche bien, est-ce qu'ils vont étendre ça à d'autres secteurs d'applications, et si c'est le cas, je pense qu'ils cherchent clairement à concurrencer iTunes.
Ah oui, c'est sûr, oui.
Oui, puis ils pourraient très bien se lancer sur le cinéma ou...
Ah oui, bah ça, c'est sûr que le jour où Spotify intègre aussi des films ou des séries télé, mais c'est le bonheur, quoi.
Jérôme qui dit, je vais lancer Stupify, un abonnement à la drogue en flux continu.
Écoute, Jérôme, je pense qu'il y a un business model à trouver. Là.
Mais par exemple, sur uTorrent, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont un client torrent, Twitter.
Twitter dans un client BitTorrent.
Ah ouais, ça doit tweeter ce que t'es en train de télécharger, un truc comme ça. Ils ont la chaîne TED. Ils ont des trucs, enfin le magazine, la Mec, enfin ils ont des sites qu'ils ont rejoints. Il y a des jeux aussi.
Ils ont un accord aussi avec le magazine Rolling Stone, je crois.
Possible.
Ah non, là tu parles de Spotify, oui.
Ah, moi je parlais de uTorrent.
Ah oui, d'accord.
Pour mais donner oui, un peu un exemple du genre d'application quoi qu'ils peuvent faire.
Ah mais ça peut être intéressant ça. En plus avec TED, de manière à avoir en fait à regarder les vidéos de TED directement en P2P sans avoir à les streamer ou les télécharger quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais. Des chaînes directes comme ça, ou alors après des trucs un peu plus musique, spécialisés sur les années 80 ou les groupes qui sont un peu moins connus avec des trucs de recommandations, etc.
Ah oui, bon, un truc de distribution quoi. Ah,
mais c'est mais c'est vraiment un truc de distribution. Je pense que Spotify va s'orienter là-dessus, quoi. C'est possible. Clair.
Non, mais c'est effectivement pas bête du tout. Un système de distribution pour les petits groupes pas connus, ça peut être pas mal du tout.
Il y a un antivirus aussi intégré.
D'accord. Mais oui, et pour Spotify, merci Christophe, un accord avec Rolling Stone, par exemple. Enfin, c'est quand même hallucinant que Rolling Stone ne puisse pas directement faire des deals avec, tu vois, pour passer la musique sur leur site, parce qu'il y a énormément de gens qui pourraient écouter la radio Rolling Stone, par exemple.
Ouais.
Bah là, en l'occurrence, ils peuvent le faire à l'intérieur de Spotify, c'est pas mal. New Twitter, donc le Twitter a encore changé de visage, nouvelle version qui est propagée sur toutes les versions, sur les apps, alors iPhone, pas encore sur iPad, mais j'imagine déjà sur Android, et sur le site aussi. Bref, une nouvelle version. Regardez, si vous êtes sur Twitter, vous connaissez sûrement déjà ça. En un mot, bien, pas bien?
Pas mal, même si je l'utilise que sur iPhone pour l'instant. D'accord.
quand même.
Moi, j'utilise pas en fait le client Twitter officiel sur l'ordi. Donc, je trouve, je préfère faire les colonnes avec TweetDeck.
J'avais dit en un mot bien pas bien. Hein. Tu me fais un moment, mais
enfin plutôt bien. Okay. Même si j'ai trouvé quelques bizarreries ergonomiques du style les DM qui sont dans ton profil.
Ah bah ils les enfoncent aussi loin que possible. Hein, les direct messages, ils veulent les faire disparaître. Hein,
ouais.
J'ai l'impression.
Ouais.
Moi j'ai pas testé donc je peux pas te dire, mais j'ai jamais été vraiment un fan des applications officielles Twitter, mais bon, peut-être que ça est mieux.
Ouais, je pense que si les précédentes t'ont pas plu, c'est pas forcément la peine de rejeter un coup d'œil à celle-là, je crois.
Ok.
Et des améliorations à venir pour Google+, le fait enfin de pouvoir retirer de notre flux principal certains de nos cercles. On va pouvoir, d'ici la fin de l'année, avant la fin de l'année, choisir par exemple tel cercle, je veux avoir certaines des updates, un peu, beaucoup, pas beaucoup, rien du tout, dans mon flux principal, mon flux d'accueil. Ça, c'est très pratique. Il y aura aussi des multi-administrations, ce qu'on attendait depuis longtemps pour les pages de marque, et ce qui va nous permettre enfin de lancer la page Google Plus de NoWatch. On l'a déjà lancé, mais on ne l'a pas activé parce que si une personne doit gérer tout ça, à mon avis, il va péter les plombs très vite.
Ça peut tromper une fois 1000 personnes. Mais...
voilà. Mais dernière chose, information bonus Corben, avant de nous quitter.
Oui.
C'est l'information sur l'Élysée qui télécharge des contenus illégaux.
Ah, la belle affaire.
tu peux peut-être nous en parler rapidement avant qu'on ne se quitte.
Ouais, en fait, oui, enfin, c'est d'abord sorti sur un blog qui s'appelle Nicopic, qui a été contacté par un mec. Enfin, en fait, je dis ça, mais le mec qui l'a écrit m'avait écrit aussi, et j'avais pas poussé le truc plus loin parce que c'était un peu difficile à creuser, mais bon, en gros, ouais, à vérifier, mais en gros, à partir des RSIP de l'Elysée, en les passant dans un site qui s'appelle You Have Downloaded, il a pu déterminer que l'Elysée avait normalement téléchargé certains films sur BitTorrent. Alors en fait, juste pour expliquer, le site You Have Downloaded, c'est un site, c'est un espèce de proof of concept qui à partir d'une adresse IP, n'importe laquelle, la vôtre, va checker dans une base de données en fonction des trackers publics BitTorrent. Quels sont les fichiers qui ont été téléchargés à partir de cette adresse IP. Voilà en gros comment ça marche. Donc en utilisant l'adresse IP de l'Elysée ou même d'autres, il y a eu des affaires similaires aux États-Unis avec la RIA ou Universal, etc. Ils ont pu déterminer que c'était un peu fait ce que je dis pas ce que je fais. Maintenant, le truc c'est que l'Elysée a démenti. Ils ont dit non, c'est pas nous, on n'a pas téléchargé, etc. Et ils ont carrément dit aussi que l'adresse IP n'était pas une donnée fiable. Ce qui est vrai, ils ont raison, ça peut être usurpé, spoofé, faké, enfin tout ce qu'on veut.
Ce qui est quand même énorme.
Et ce qui est énorme, oui, parce que c'est quand même un peu là-dessus.
Le principe de base de l'Adopi.
Voilà, c'est un peu là-dessus que se base Adopi, c'est-à-dire de dire qu'on vous a gaulé à télécharger parce que votre adresse IP a été relevée à tel endroit et vous avez rien à dire. Donc, voilà, le truc c'est que l'Elysée est téléchargée ou pas, on ne pourra jamais vraiment le savoir de source sûre.
Mais surtout, l'Elysée c'est énorme, il y a énormément de gens qui y travaillent, il est tout à fait possible qu'un mec, un stagiaire qui soit là, tu vois, il se dit « Oh bah qu'est-ce que j'ai à faire ce soir ?»
C'est possible, mais en même temps ça vient aussi d'un site « You have downloaded », personne ne sait rien là-dessus, on ne sait pas comment on fait les bases, voilà. Après il y a des tonnes d'extensions pour des clients BitTorrent qui permettent d'envoyer des fausses adresses IP, donc pourquoi il n'y aurait pas les adresses IP de l'Elysée là-dedans, histoire de foutre le bordel. Il y a tellement de sites qu'on peut pas vraiment savoir si c'est du lard ou du cochon. Donc,
c'est Carla qui a téléchargé le dernier album de Lady Gaga.
C'est ça, voilà. Non, mais le truc qu'il faut retenir de tout ça, c'est surtout qu'effectivement, ils ont quand même un peu, enfin, ils ont démonté le truc d'Adopi et l'Elysée, c'est pris les pieds dans le tapis et a carrément, cassé tout le business, enfin, le modèle Adopi, juste avec une phrase, quoi.
C'est ça.
C'était beau.
Et c'est Nicolas Poppy nous dit, vous croyez pas que l'Elysée a un super firewall bloqué? Évidemment, l'Elysée, certaines parties de l'Elysée sont placées derrière un firewall de folie. Il y a aussi certainement un Wi-Fi pour tout le monde public, tu vois, pour que les mecs puissent travailler normalement aussi en fonction de là où ils sont dans l'Élysée. C'est énorme, quoi. Donc, mais l'intéressant dans cette histoire, comme le disait Corben, c'est l'Élysée qui dit, bah, de toute façon, l'adresse IP n'est pas une donnée fiable. Vous avez vu ce que c'est Adopi ou pas? C'est en fonction de l'adresse IP qu'on vous condamne ou qu'on vous condamne pas. Donc,
oui, et si, tu dis que c'est pas toi, on te condamne quand même à pour non sécurisation de ton accès internet. Donc en là, plus, finalement, si l'Élysée a démenti, donc l'Élysée devrait être condamné à non sécurisation de son accès internet.
Exactement.
Et ils avaient plus de 3 choses qui avaient été téléchargées, donc ils sont condamnés direct. Il faudrait couper le...
Bon, énorme.
Allez, on y va ce soir, on prend les pinces coupantes et on retire le match. On va aller couper la connexion nous-mêmes parce que sinon ils le feront jamais.
Exactement. Bon. Bah écoutez, je crois que sur cette information plutôt sympathique, on peut se quitter pour la journée. Je vais quand même, pendant que Corben va nous dire où on peut le retrouver sur internet, je vais voir s'il y a des commentaires sympathiques sur iTunes.
Oui, alors moi on peut me retrouver sur le blog corben.info, sur le twitter.com/corben, sur Google+, vous tapez Corben ou mon nom de famille, comme vous voulez. Voilà, sur Remix Jobs aussi, le site d'emploi, si vous cherchez un job dans les métiers du web, et sur YouPorn, comme le dit Damien Rossi. Dans la chatroom, voilà, vous tapez /Rocco c'est moi et c'est bon.
D'accord, ok, voilà. Bon.
Rocorben.
Voilà, c'est ça. Ouais, non, mais rigole pas.
Oh, Rocorben.
Non, mais sans déconner, si tu tapes Corben dans Google Images et tu désactives le filtre parental, il y a un acteur porno gay américain qui s'appelle, qui a le même pseudo que moi, et il y a des belles photos très très subjectives de ce monsieur.
Il a l'air charmant. Hein. Il a le multipass.
Voilà, il a un gros multipass qui passe partout. Et voilà quoi. Donc,
d'accord.
Vive le filtre parental.
Information intéressante. Christophe.
Eh bien moi, vous pouvez me retrouver quand je ne me fais pas piquer ma place. Vous pouvez me retrouver dans Upcast aux côtés de l'ami Kainborg. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter @cponsole, CPONSO2LE. Voilà.
Merci. Alors, comme je le disais, un petit commentaire iTunes vite fait. Je prends généralement le dernier. Là, c'est celui de Yama94 qui nous a mis 5 étoiles. Merci à lui. LRDV Tech est le podcast qui m'a fait découvrir les podcasts il y a 2 ans. Et depuis, j'en suis à plus d'une trentaine en espérant entendre plus souvent Yann. Désolé, il n'était pas là. S'il pouvait sortir de sa douche la prochaine fois. Merci à toi, Yama94. Et entre parenthèses, on est à 995 notes. Donc, si vous allez laisser un commentaire, vous pourriez être le 1000e. Alors maintenant, il y en a qui vont dire « Non, je ne fais rien jusqu'à ce qu'il y ait le 1000e ». Non, aidez-nous à avoir 1000 notes, ça serait sympa. Et en tout cas, si vous nous laissez des commentaires, ça nous aide à faire découvrir le podcast à d'autres, comme Yama94 qui l'a découvert, qui en est à une trentaine de podcasts. Ça nous aide énormément puisque iTunes est un moyen de découverte de podcasts assez utilisé. Et si, comme Yama94, vous dites « Le rendez-vous tech, c'est super sympa, mais j'aimerais découvrir d'autres émissions », vous pouvez aller sur nowatch.net, puisqu'il y a évidemment tout plein de podcasts à découvrir là-bas. Peut-être des trucs auxquels vous n'avez jamais pensé avant, vous disiez « Ouais, ça m'intéressera pas », comme au hasard Remix Jobs, le oui. podcast de Corben, qui vous parle des métiers du web. Peut-être que vous en avez marre d'être comptable ou, tu vois, banquier, et vous dites « Putain, j'aime bien ces truc de web, j'ai déjà regardé un petit peu le HTML5 dans le site que j'ai fait ici, et ben peut-être qu'il y aura des choses qui vous motiveront et qui vous feront découvrir des métiers que vous aimez bien. C'est pas que de la programmation, hein. Ouais, il y a aussi des trucs.
Même moi, je comprends. Alors,
c'est vrai, c'est pour dire. Beau, parce qu'on l'a pensé pour toi, en fait. Hein.
C'est ça, en fait. Donc, je suis le maître étalon.
Et ça. Entre parenthèses. Vous avez découvert, j'aime pas quand on dit les choses comme ça. Bref, vous avez écouté peut-être l'émission précédente qui avait été enregistrée en fait en tant que No Watch Mag, montée par les soins très habiles de Christophe d'ailleurs. Pendant le web, il y avait aussi un test du Microsoft Surface 2 qui était sur le site sur nowatch.net, donc vous pouvez aller regarder ça aussi. Et Et ben voilà, on arrive effectivement à la fin de cette émission. Ah oui, voilà, je sais ce que je voulais dire. Je voulais remercier tous ceux qui sont sur le site de, pardon, sur le Reddit de l'émission, qui nous aide à classer et à découvrir les informations les plus intéressantes de la semaine. C'est sur reddit.com/r/rdvtech. Le lien est dans l'article de l'émission. Donc merci à tous ceux qui participent à ça. Et merci à tous ceux aussi qui nous ont laissé des commentaires sur le post, enfin sur le post, sur l'article de l'épisode. Je sais plus si bon, c'était il y a un moment, donc je vais pas vous imposer des discussions et des commentaires qui ont été faits il y a deux semaines, un mois déjà. Mais en tout cas, moi, ça faisait un mois que j'avais pas fait mon petit enregistrement depuis chez moi avec la chatroom et en live. Donc ça m'a fait très plaisir de revenir et on sera de retour évidemment dans deux semaines. Bah, à peu près, hein, ça sera ouais. le 2 janvier.
En frais.
Et moi, dans
super frais.
Donc, bon, on verra exactement le jour de l'enregistrement. On décidera. Et Corben, donc, dans 2 ans, rendez-vous voilà. est pris, fin 2013, pour le dernier épisode de 2013. Ah! C'est le dernier épisode de 2012. Donc, on se doit oui. de vous souhaiter
bonne fin
un
du
excellent
monde.
Noël. non, bon pardon, c'est Noël. Le dernier épisode de 2011, je veux dire. Ouais. Donc, joyeux Noël, très bonne année. Tiens, un petit truc marrant. Sur l'article de l'émission, venez nous donner les bonnes résolutions tech que vous allez prendre pour 2011. On en parlera dans le prochain épisode. On sélectionnera les meilleures. Bonnes résolutions tech de 2011. Vous nous les mettez dans les commentaires de l'émission sur le blog de nowatch.net. Voilà, c'est une idée marrante, non ?
Ouais, ah, c'est pas mal idée. Ça.
Ok, très bien. Je suis fier de moi. Merci à tous. À dans 2 semaines. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.